Donc, c'est un grand privilège pour moi d'être là avec vous ce matin. C'était vraiment super la journée qu'on a passée hier avec l'équipe. On était assez nombreux et on a beaucoup bossé. Vous voyez, on est tenté de faire pas mal de choses ce matin. C'était vraiment une joie pour moi de travailler avec eux et je vous félicite tout le monde qui était là, qui est dans le groupe pour toutes les choses qu'on a fait hier, le travail qu'on a fait. Mais vraiment, c'est un service pour l'Église et pour Dieu. C'est vraiment formidable. Je me présente vite fait. Déjà ça, je fais mon meilleur, mais il est tel qu'il est. J'ai une petite, parmi plein de choses que je fais une podcast qui parle de la louange, où je fais une interview avec les gens. Et ma femme a eu l'idée formidable de nommer cette podcast Accent Louange. Oui, ça ne m'échappe pas, c'est toujours là avec moi, je ne peux rien faire, mais je fais mon meilleur. Aujourd'hui, on va regarder la Bible ensemble et essayer de faire, dans un sens, un petit résumé de certaines choses qu'on a parlé hier, parce que la première partie de la journée hier, on avait ouvert nos Bibles, on regardait qu'est-ce que la Bible dit. Qu'est-ce que la Bible nous dit sur le sujet de adoration et louange? Pourquoi on le fait? Pourquoi on vient chanter ensemble? Pourquoi? Et j'ai 30 minutes, on va pas tout faire, vous inquiétez pas. Mais on va quand même aborder certaines choses, et comme ça, vous êtes en principe sur la même longueur d'onde de votre équipe formidable de louange qui ont passé toute la journée hier en creusant cette chose dans la Bible. Avant que je fasse ça, j'aimerais bien prier. Pour Dieu de soi avec nous, pour qu'il m'aide de faire quelque chose de bien avec sa parole. Et puis, on va regarder sa parole ensemble. Et j'ai décidé de ne pas faire un PowerPoint avec le truc. On va juste regarder nos Bibles ensemble. Si vous n'avez pas une Bible, ils sont un peu partout. Cherchez un. Moi, je vais utiliser la Bible qui vient de cette église aussi. Donc, on peut même partager le numéro de page et tout. Mais on va regarder nos Bibles ensemble. OK? Je prie d'abord. Seigneur notre Dieu, c'est vraiment, je suis humble devant toi, devant ces gens, devant ta parole. Tu sais combien j'ai besoin de toi, Saint-Esprit, que tu sois avec moi, d'aider, que tu m'aides d'être fidèle et prêcher ta parole, de porter quelque chose de bien dans cette église qui va les aider, de mieux t'adorer, de mieux te louer, de prendre qu'est-ce que c'est selon la Bible, de vraiment adorer notre Dieu, d'aimer avec tout notre cœur et toute notre âme. Donc Seigneur, je te remercie pour ce privilège d'être ici, ce privilège de regarder et de prêcher ta parole. Et Seigneur, je demande seulement que tu m'aides d'être fidèle à ta parole. Amen. OK. Donc, avant de commencer avec le texte, je vais mettre deux, trois choses en règle. Hier, j'avais une grande PowerPoint avec plein de graphes et charts et machins. Et voilà. Aujourd'hui, on va faire simple. Mais j'aime bien, comme je disais, mon arrière-plan, je suis professeur. Dans ma tête, je suis professeur. Je dis souvent que je ne suis même pas un missionnaire, je suis un prof de musique mal placé. Mais, donc, une chose qui est importante pour moi, et on va discuter davantage de ça, c'est de savoir de quoi on parle, de définir les mots. Et ça, c'était une grande leçon pour moi quand je suis arrivé ici. J'ai dû apprendre le français. J'étais 36 ans et je ne parlais pas un mot de français. Bah, croissant, comme ci, comme ça. Oui, c'est à peu près tout. et quand j'ai commencé à étudier le français, j'ai réalisé, et donc lire la Bible en français, que j'ai lu toute ma vie déjà en anglais, j'ai réalisé que certains mots sont, ils n'ont pas forcément le même goût, parfois il y a certaines subtilités qui sont différentes. Donc j'ai commencé à vraiment étudier les mots. Et la première chose que j'ai commencé à étudier, c'est la louange et l'adoration. Parce que déjà, c'est deux mots qu'on utilise tout le temps, et souvent on ne sait même pas qu'est-ce que c'est. En fait, je vais vous raconter une toute petite histoire. Quand je suis arrivé ici il y a bientôt 20 ans, je suis arrivé en avril et à la rentrée en septembre, le pasteur à l'époque, le gars qui m'a appelé au téléphone et m'a invité de venir ici en France travailler avec lui, il s'appelle Florent Varac. Et je ne parlais pas français à cette époque-là, mais j'étais là, jouais la guitare, gérais un petit peu l'équipe en tant que chef d'orchestre. Mais je n'ai rien compris au niveau français, ou très 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 peu. Et juste, c'était un truc spontané de sa part, mais il a décidé que cet Américain qui arrive là, il m'a confié le job un peu comme Hubert et Michel de gérer la musique. Et donc, Florent avait l'idée, c'est bien de présenter Kevin devant les gens, comme ça ils savent qui c'est cet Américain qui parle pas bien et qu'est-ce qu'il fait parmi nous. Donc il vient, ok. On était là devant l'assemblée un dimanche, là, en septembre, et il dit, voilà, Kevin, il vient d'Amérique, il parle pas trop, mais il est en train d'apprendre, ça va venir, sois patient avec lui, il est chef d'orchestre de profession, il va gérer la musique. Il commençait d'expliquer, et je dis, mais tu fais quoi? C'est ok, sorry, c'est bon. Pendant, je dis, mais qu'est-ce que tu fais là? Et mais il est en train de, une chose qui m'a frappé, comme ça, il était en train de me présenter comme le responsable de louange et adoration dans cette église, en 760 au moins de musique, mais louange surtout. Et je réalisais que je peux même pas donner une bonne définition de ce mot. J'étais responsable de quelque chose que je peux pas définir. Le peur. Yikes, qu'est-ce que j'ai fait, moi? Donc, Florent et moi, on a commencé une voyage, si vous voulez, on a vraiment commencé de creuser la Bible et trouver tout ce qu'on peut sur le sujet de louange et adoration parce que j'avais besoin. Je savais pas. Tu veux que je fasse un truc et je comprends pas qu'est-ce que c'est. Donc, on a commencé de vraiment étudier le truc. Et je vais mettre ici, je suis plus à l'aise, je suis loin de vous là. Louange et adoration, c'est pas des synonymes, bibliquement parlant. J'ai dit hier aux gens que des fois, on dit que, j'ai entendu le pasteur dire oui, la louange, c'est notre réponse à ce que Dieu est. Non. Louange est notre réponse à ce que Dieu a fait. Et l'adoration, c'est notre réponse à ce qu'il est. C'est beau, n'est-ce pas? C'est pas du tout biblique, du tout. Rien à voir, mais c'est une jolie phrase. Comme Florent aime bien dire, ça se prêche pas. Mais, bibliquement, il y a deux choses. Okay? Adoration, selon la Bible, c'est toute notre vie. La Bible nous dit, il faut aimer notre Dieu avec tout notre cœur, avec toute notre âme. Okay? L'apôtre Paul parle en romain d'une vie d'adoration, d'adoration, d'une culte raisonnable, souvent traduit comme ça. C'est le mot utilisé pour adoration en grec. Il parle pas de la musique. Il parle pas de chant. Il parle pas des instruments. Adoration, c'est quelque chose de plus large. Donc, une bonne manière de voir ça, c'est que adoration, c'est toute notre vie. Tim Keller, et on va voir ça dans le texte, mais Tim Keller, il utilise Psaume 95 pour expliquer que adoration, c'est de mettre Dieu dans place numéro un dans notre vie, tout simplement. Qui soit la chose plus importante. Adorer, c'est, en fait, il a dit une chose que j'ai bien aimé. Il dit que le monde n'est pas divisé entre les gens qui adorent quelque chose et les gens qui n'adorent rien du tout. En fait, tout le monde, on est tous des adorateurs. Tout le monde adore quelque chose. Adoration, ça veut dire, ça c'est la chose sans laquelle tu ne peux pas vivre. Ça peut être ton épouse, ça peut être tes enfants, ça peut être l'argent, ça peut être sexe, ça peut être pouvoir, ça peut être Netflix, j'en sais rien. Mais on a tous quelque chose qui est primordial dans nos vies. Et donc, ça c'est la chose que vous aiderez. Paul, il a compris. Paul, il a dit en Philippiens, j'avais appris, c'était pas inné, c'est une chose qu'il a appris, hein. J'avais appris comment avoir la joie en toutes circonstances. C'est Jésus. Parce qu'il adore Jésus. Jésus est dans cette première place. Et donc, s'il a quoi à manger ou non, c'est OK, parce que j'ai toujours Jésus. Si je suis en prison ou libre, c'est OK. Pourquoi? Parce que j'ai toujours Jésus. J'ai réalisé que je suis un pécheur misérable. J'ai bien aimé, André, ce que tu as dit. Pour avoir Jésus, il faut réaliser d'abord qu'on est pécheur. On a besoin d'un sauveur. Les gens qui sont parfaits, ils n'ont pas besoin d'un sauveur. Mais de réaliser que je suis pécheur et j'ai besoin d'un sauveur. Et Jésus m'offre cette réconciliation avec Dieu malgré moi-même. Ah, voilà une raison pour laquelle on peut adorer. On peut dire oui, il mérite cette première place comme on vient de chanter. OK? Donc ça, c'est adoration. C'est toute notre vie. C'est lié souvent au service. Il y a beaucoup de mots en grec et hébreu qui sont traduits comme adoration. Mais le mot utilisé le plus dans les deux langues, ça va traduire littéralement comme se mettre à genoux, se prosterner. C'est une attitude. C'est réaliser qu'il est Dieu et je ne suis pas. Ça, c'est adoration. Ça, et ça s'est fait dans plusieurs actes, comme le scène, c'est un joli acte d'adoration. C'est une manière de dire, tu es Dieu, il nous aime tellement que Jésus ne peut pas être, il a dit aux disciples avant les parties, je ne peux plus rester avec vous corporellement, mais je vous laisse le Saint-Esprit. Il nous a laissé ce truc parce que j'étais dans une classe il y a 2 semaines avec un gars qui s'appelle Tim Chester, que peut-être que certains vous ont lu son livre, mais il nous a expliqué que Jésus ne peut plus être maintenant avec nous, mais il a laissé le pain et le vin comme un truc tangible qu'on puisse toucher pour rappeler qu'il est toujours là avec nous. C'est un acte d'amour de sa part, pour nous. Et quand on fait ça, ça c'est un acte d'adoration. Le baptême, c'est un acte d'adoration. Service dans l'église, c'est un acte d'adoration. Témoigner, Paul il dit, le Dieu que je sers, adoration, avec mon esprit, ça veut dire tout mon cœur, par prêcher l'évangile. Adoration, c'est tout, tout, tout. Louange, par contre, c'est très, très ciblé. Louange, c'est lié à la célébration. C'est souvent lié à la musique et le remerciement. Remerciement. Ça, c'est louange. Ce qu'on fait ici, normalement, le premier 30 minutes de ça, c'est louange qui est une type, un acte d'adoration, comme la prière, comme plein d'autres choses qu'on peut faire. Exprimer notre reconnaissance à Dieu pour ce qu'il a fait, pour qui il est, pour nos saluts, pour la beauté de création. Ça, c'est louange. On lui donne le gloire qu'il est dû. On vante ses mérites. Ça, c'est louange. Donc, juste pour savoir, quand on parle d'une chose et une autre, on sait de quoi on parle. OK? OK? OK. Prendre vos Bibles, on va regarder ensemble Psaume 95. C'est le psaume, apparemment, le plus utilisé pour parler d'adoration et louange depuis le siècle. Et je ne vais pas avoir beaucoup de temps de creuser, de tout faire. Je n'ai pas noté quand on a commencé. 5 minutes. OK, super. Donc, OK, ça marche. OK. Est-ce que ce n'est pas prévu, mais vous voyez, j'ai cet accent qui est un peu affreux. Est-ce que je peux demander à quelqu'un d'autre parmi vous qui a un accent un peu moins grave que le mien, qui peut lire ça pour nous en haute voix? Merci. Tu peux enlever le masque peut-être pour le faire, sinon on ne comprend rien.
Venez, crions de joie en l'honneur de l'Éternel. Poussons des cris de joie en l'honneur du rocher de notre salut. Allons au-devant de lui avec des louanges, faisons retentir des chants en son honneur. Car l'Éternel est un grand Dieu, il est un grand roi au-dessus de tous les dieux. Tient dans sa main les profondeurs de la terre, et les sommets des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a fait. La terre aussi, ses mains l'ont formée. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou devant l'Éternel, notre Créateur. Car il est notre Dieu, et nous sommes le peuple dont il est le berger, le troupeau que sa main conduit. Aujourd'hui, si vous entendez cette voix, n'endurcissez pas votre cœur comme à Meriba, comme lors de la journée de Massa dans le désert. Là, vos ancêtres m'ont provoqué, ils m'ont mis à l'épreuve, bien qu'ils m'aient vu agir. Pendant 40 ans, j'ai eu cette génération en dégoût, et j'ai dit, c'est un peuple dont le cœur s'égare, ils ne connaissent pas mes voies. Aussi, j'ai juré dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos.
Merci beaucoup. Ok, donc, ce texte est un peu compliqué, il y a beaucoup de choses dedans, on ne va pas tout faire ce matin, mais... Si je peux, il y a 3 choses qui sont pour moi évidentes dans ce texte qu'on va aborder. Ça nous dit qu'est-ce que c'est l'adoration. On vient de parler de ça, mais on va aller un peu plus loin. Mais qu'est-ce que c'est l'adoration? C'est-à-dire mettre Dieu dans sa première place. Comment le faire? Il nous donne un modèle. Et à la fin, pourquoi? Ou au moins une raison pour laquelle pourquoi? Okay. Qui est un peu compliqué, mais on va essayer de faire. Et en parlant de notre adoration, on va expliquer le rôle de louange dans notre adoration. C'est beaucoup ce qu'on a fait hier. OK? La première partie, si vous voyez le psaume, ça peut être facilement coupé en 2 sections. Donc, tu as le premier verset, « Venez, crions de joie, l'honneur de l'Éternel. » C'est beaucoup de choses d'émotion, c'est venez, crier, pousser, chanter. avec des louanges, faisons retenir des chants en son honneur. C'est nos cœurs, c'est les émotions. Okay? Et le truc avec adoration, c'est que ça couvre tout. Encore Tim Keller, ils disent que adoration, c'est de mettre quelque chose dans la première place, que ça touche, que ça change nos émotions, nos actes, nos volontés, qu'on est prêt de changer nous parce qu'on avait mis Dieu dans cette première place dans notre vie. Une vie d'adoration. On est changé, on est né de nouveau. OK? Et si tu... C'est très intéressant parce que il explique, c'est lié avec la louange, oui. Venez, crions, allons devant lui, car l'éternel est, ok, et puis verset 3, pardon, verset 3, j'ai presque envie chaque fois que je lis ça de mettre en parenthèse, pourquoi? Pause. Criez, chantez, proclamez comme il est grand. Pourquoi? Ah! Parce que, verset 3, car l'éternel est un grand Dieu. Il est un grand roi au-dessus de tout le Dieu. Il tient dans sa main les profondeurs de la terre et le sommet des montagnes sont à lui. La mer est à lui. C'est lui qui l'a faite. La terre aussi, sa main l'a formée. Ça, c'est pourquoi on loue le Seigneur. Ça, c'est louange. Ça, c'est une super, ça, c'est louange. Il a fait toutes ces choses. Il est puissant. Regarde ce qu'il a fait. On continue. C'est plutôt maintenant dans l'adoration avec le langage qu'il use, mais c'est semblable, c'est la même chose. Venez, prosternons-nous et humilions-nous. Plions le genou, qu'on avait dit, c'est exactement la définition stricte de l'adoration, plier le genou. Devant l'Éternel, notre Créateur. Pourquoi? Car, ça continue, il est notre Dieu. Et nous sommes le peuple dans son berger, le troupeau que sa main conduit. Donc, ça nous donne une image de comment. J'ai dit, qu'est-ce que c'est? On va déjà définir qu'est-ce que c'est louange, qu'est-ce que c'est adoration. Comment le faire? C'est un super modèle, en fait. Tu vois ce que le psalmiste est en train de faire? Il fait une liste, pas exhaustive, hein, mais une liste de pourquoi Dieu est formidable. De ces attributs qui méritent notre louange. Il a créé la mer, il a créé la terre, il a créé tout. Il est notre créateur. Il est tout puissant. On vient de chanter beaucoup de chants qui parlent de combien il est digne, des choses qu'il a fait pour nous. On vante ses mérites. C'est ça qu'il fait. Et c'est ça que nous faisons, que nous sommes là pour louer. Donc, si louange est un acte d'adoration, maintenant il faut savoir, OK, comment louer correctement. Il y a quelques autres versets dans la Bible que je veux bien voir ensemble. Pour que, comme ça, quand l'équipe fait les choses ici, vous savez pourquoi et vous savez aussi, excuse-moi, vous savez, je peux pas parler français, vous savez votre rôle. Parce que, une chose, il faut comprendre que leur job ici, et j'étais vraiment cash, on va dire, avec eux hier. N'est-ce pas, Hubert? Oui. Leur job ici n'est pas de louer le Seigneur. Forcément, ou quoi que, pas que ça. Leur job est de conduire l'assemblée dans la louange de notre Dieu. Ils sont là pour conduire. Si je mets le chapeau de chef d'orchestre, on parle musicalement, la voix principale dans l'ensemble musical, c'est vous. Ils ont le micro, parce que, par exemple, avec un nouveau chant, c'est bien d'avoir quelqu'un qui peut faire la mélodie pour vous, pour apprendre. Mais le chorale, c'est vous. C'est pas eux. Ils sont là pour accompagner la voix principale qui chante à leur Dieu. Ça, c'est vous. C'est comme ça que ça marche. OK? OK. Super, ça m'aide. N'oublie pas, je suis prof, hein. OK. Donc, si ça, c'est le but, si c'est ça qu'on fait, qu'est-ce qui se passe quand on chante? OK? C'est un peu technique, mais je vais essayer de vous expliquer. Ça, c'est aussi non exhaustif. Mais il y a plusieurs choses qui arrivent en même temps quand nous chantons dans l'église. OK? C'était une manière de dire ça. C'est pas parfait, mais c'est une manière que j'ai pour dire, pour expliquer ça. C'est qu'il y a plusieurs auditoires en même temps qui sont là. Comment ça, Kevin? On chante dans la manière verticale, oui, et horizontale au même temps. C'est-à-dire que nous chantons à Dieu, et ça c'est très biblique, c'est un sacrifice de louange, c'est une chose qui plaît à Dieu, c'est agréable pour lui, on est commandé de faire. La Bible parle de la chante plus que 400 fois dans la Bible et plus que 50 fois, c'est donné comme le verbe en forme impérative. Chanter. Je ne m'ai jamais demandé, Kevin, est-ce que tu veux chanter? Est-ce que ça te plaît de chanter? Est-ce que tu as envie de chanter? Je dis souvent, si tu n'aimes pas chanter, il faut pas aller au ciel. Désolé. C'est pas moi qui lis, c'est la Bible. Regarde, psaume, est-ce qu'on peut regarder ensemble le psaume 47? Joshua, tu peux pas dire non parce que tu es le pasteur et en plus tu es un ancien étudiant. Donc, est-ce que tu peux demander de lire ça pour nous, s'il te plaît? Non, en fait, on va commencer. C'est là où c'est chanter. Tu es où là? Oui, c'est ça. Oui, s'il te plaît. Verset 7.
Chantez en l'honneur de Dieu. Chantez en l'honneur de notre roi. Chantez, car Dieu est le roi de toute la terre. Chantez un cantique. Dieu règne sur les nations, Dieu sait sur son saint.
J'ai presque l'impression que Dieu veut qu'on chante. C'est important. Et donc, pour chanter lui, c'est très important. OK? Ça, c'est une auditoire, si tu veux. On chante à Dieu. Mais il est peut-être que vous ne connaissez pas, je pense que c'est pas traduit, mais il avait une chant qui était très connue, il y a 10, 15 ans, par un groupe qui s'appelle Sonic Flood. C'était très connu et c'est Audience of One. Ça veut dire en français auditoire d'un seul. On chante seulement à Dieu, tu es mort. Ouais, et c'est beau, comme l'autre phrase, mais ça ne prêche pas. Ça se prêche pas. C'est juste pas biblique. Parce que maintenant, on va regarder ensemble Colossiens 3, verset 16. C'est un verset facile de retenir, vous savez, parce que c'est comme Jean 3, 16, mais c'est Colossiens. Ça, je vais faire parce que c'est le premier verset que je n'avais jamais appris par cœur en français. Celui-là, je peux faire. Okay? Que la parole de Christ habite en vous, en toute sa richesse. On va arrêter là. Déjà, ça c'est mal traduit. Un petit peu. C'est mal traduit parce que de dire précisément, c'est un peu mal à droite en français. Le mot riche, c'est vrai que la parole de Dieu est riche, mais ils ont mis le mot, c'est plutôt, dans le grec, c'est un adverbe, c'est un mot qui va modifier la manière dans laquelle la parole de Christ doit habiter en nous, pas le fait que la parole lui-même est riche, elle-même est riche. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un peu technique. Mais ça veut dire que Dieu, Paul, il écrit, donc Dieu a dit, que la parole de Christ habite en vous, pas visite en vous. Achetez une chalet dans le code postal, habite en vous. Dans une manière riche, richement, je pense qu'on peut dire en français, mais c'est pas aussi joli que dans toute sa richesse. Et j'avais appris, quand j'ai pris le cours de français, que souvent, la règle française, excuse-moi, mais vous faites les choses parce que c'est plus joli. C'est souvent le cas, hein? Hey. Oh, mais c'est plus joli comme ça. OK, mais que le parole de Christ habite en vous dans une manière riche. Et c'est comme je suis en train de parler avec Paul, l'apôtre Paul. Imagine, Kevin et Paul, ils sont en train de discuter. Et Paul dit, Kevin, en tant que responsable de l'Église, il faut que tu saches, c'est important que la parole de Christ... Littéralement, ça veut dire la chose que Jésus a dit. Donc, l'évangile. Que l'évangile habite en toi. Que ça reste vraiment ancré dans ton âme, dans ton cœur. Que ça habite en toi dans une manière très riche. Et dit, OK, mais c'est bien, Paul, mais comment je fais ça? C'est bien que tu m'as demandé, Kevin. En fait, instruisez-vous et exhortez-vous les uns les autres. OK, Paul, c'est bon de dire, on va exhorter les uns les autres et on va instruire les uns les autres avec quoi? Avec la parole de Christ. Vous suivez, c'est tout connecté. On va communiquer les uns les autres, encourager les uns les autres avec l'évangile. OK, Paul, ça je comprends. Mais comment faire ça? C'est pas évident. C'est bien que tu m'as demandé, Kevin. En fait, faire ça en chantant les psaumes, les hymnes, les cantiques spirituels. Ah, wow, ok. Donc, selon Paul, donc selon Dieu, on chante ensemble quand nous sommes réunis, non seulement pour chanter Dieu, mais aussi pour instruire, exhorter, avertir, selon les traductions, les uns les autres, encourager les uns les autres dans la foi, instruire les uns les autres dans la foi avec le chant qu'on fait. Ah oui. Donc, le chant dans l'Église, c'est un ministère de la parole. Oh, plutôt comme ça. Le chant, c'est un ministère de la parole. Ce qu'on chante, contenu, c'est très, très important. On n'est pas le droit, c'est ça que je vais essayer d'expliquer hier. On n'est pas le droit, en tant que groupe de louange, de choisir le chant qui ne sont pas à l'auteur de Colossiens 3:16. En tout cas, moi, je ne veux pas être à la fin de mes jours, être devant Jésus et dire, oui, je te donne cette responsabilité d'instruire les gens avec ma parole, d'encourager la famille de Dieu avec ma parole, avec le chant, et tu choisis les choses qui gouvent bien, que tu aimes. Oui, ok. Mais qui disent n'importe quoi. Désolé. Ça marche pas. Et c'est pas moi qui dis, c'est la Bible. Donc, tous les chants qu'on faisons doivent avoir, en fait, ils doivent avoir une raison d'être. Le nouveau chant qu'on a fait, c'est tiré directement d'un psaume qui parle de l'omniscience et de la puissance de Dieu, que n'importe où on va, Dieu est là. Ça, c'est une bonne chose d'enseigner. Ça reste avec nous. Il faut réaliser la puissance de ce qu'on chante. On va pas tourner parce que j'ai pas le temps, je vais essayer d'aller très vite avec. Mais Dieu, en Deutéronome, 31, vous pourrez regarder plus tard. Dieu, il parle avec Moïse juste avant l'Israélite va aller dans la terre promise. Et il dit, parce que Dieu est omnipotent et omniscient, comme on vient de chanter, ils savent que le peuple d'Israël va encore une fois trahir et abandonner Dieu et commencer d'adorer les idoles. Et donc, à cause de ça, le jugement et la colère de Dieu va venir contre ce peuple. Une fois encore. Et donc, tout le malheur va venir sur eux et ils vont commencer de questionner l'intégrité de Dieu et la gloire de Dieu. Ça, Dieu nous a abandonnés, il n'est pas fidèle avec nous. Et ça prend là, Dieu dit, non, ça se fait pas, non. Donc, comment il réagit dans ce problème? C'est pas étonnant pour moi que Dieu, omniscient, omnipotent, qu'il savent que les Israélites va encore une fois être infidèle. Quoi de neuf? Oui. Mais, qu'est-ce qu'il fait pour ça? C'est intéressant. Il dit, OK, Moïse, assieds-toi, on va prendre un chant. Quoi? Ça s'appelle, dans ta Bible, ça s'appelle le chant de Moïse. Il a enseigné un chant de Moïse, qui Moïse a enseigné, enseigné au peuple. Et Dieu a dit, dans les générations de venir, quand ils ont oublié de moi, quand ma colère est descendue sur eux à cause de leur désobéissance, ils vont repentir et revenir à moi et je vais rétablir ma relation avec eux parce qu'ils vont se souvenir de ces chants dans les générations après qu'on va prendre aujourd'hui. Ça me donne la frisson quand je pense. Dieu peut faire tout ce qu'il veut, c'est Dieu. Mais sa manière de faire certain, de vérifier que le peuple, ils vont rappeler de quelque chose d'important, on va prendre un chant. Si ça peut pas vous convaincre de l'importance et la puissance de ce qu'on chante quand nous sommes ensemble, je sais pas quoi faire. Je peux pas vous aider. OK. Mais une autre chose, chanter. OK. Mais pourquoi est-ce que c'est important de chanter ensemble? Parce qu'on peut chanter tout seul dans notre pièce. Mais si j'avais pris une seule chose pendant le confinement de COVID, c'est que j'ai besoin de vous. Et on a besoin des uns des autres. C'est une autre chose en psaume 95, avec, à cause du temps, je ne vais pas relire, je vais juste expliquer vite fait. Mais une autre chose que le psalmiste fait, il est une soumission de ce que la Bible dit sur le sujet de Dieu. Moi, quand je parle avec les gens aujourd'hui, J'ai souvent, ça doit être, oui, dis-moi si vous avez entendu une chose comme ça. Oui, Kevin, Dieu, ok, peut-être il y a un Dieu là quelque part, mais je suis pas sûr, mais tu sais, les choses dans la Bible que, là, pourquoi Dieu n'aime pas les homosexuels et pourquoi c'est nécessaire d'être marié avant d'habiter ensemble si on s'aime et pourquoi est-ce que je dois faire ça et pourquoi, il y a une chose que je suis pas d'accord. Donc, peut-être il y a un Dieu, mais je pense que Dieu peut pas être comme il est dans la Bible parce que je suis pas d'accord avec certaines choses. Ça me convient pas, le Dieu dans la Bible. Je préfère un Dieu plutôt comme ça. Donc, même s'ils ne réalisent pas, ils construisent un Dieu individuel pour eux. Fais sur mesure pour sept, et toi, tu vas avoir un pour toi, pour toi, pour toi, pour toi. On est tous notre petit. Ça se fait pas. Ça ne peut pas marcher. Parce que le Dieu que tu fais pour toi-même ne va pas être le même que tu fais pour moi. Non. Le psalmiste, ce qu'il fait. Il est une soumission de ce que la Bible dit sur Dieu et qui il est. C'est pas nous qui décide qui est Dieu. C'est Dieu qui décide. Dieu est. Il est. Il est. Et donc, le psalmiste, il dit, Dieu est comme ça. Il est puissant. Il est un bon berger. Il est. Et on est tous en soumission de ce que la Bible dit sur qui est Dieu. Et à cause de ça, parce qu'on est tous sur la même longueur d'onde de Dieu, plus ou moins, ça fait de nous une famille. On est frères et sœurs parce que nous avons le même père. On est le même sauveur. Si on n'est pas le même sauveur, on n'est pas le même père, on n'est pas frères et sœurs. Donc quand je suis là avec vous ou avec une autre église et on chante ensemble, en Jésus seul est mon espoir et c'est ton espoir et ton espoir et ton espoir et ton espoir et mon espoir, je réalise que le salut n'est pas juste pour moi. C'est pas juste moi qui est sauvé. Et je fais partie d'un royaume, un peuple qui était choisi. Et, pour finir ce verset-là, on est choisi pour quoi? On est choisi pour la louange, pour porter la louange à Dieu. On est choisi pour ça. Donc, nous sommes unis dans l'unité par le fait qu'on chante ensemble, on vit ensemble et on chante les choses qui correspondent à cette parole. Ça, c'est la louange. Pour terminer, c'est très important qu'on chante les choses qui sont importantes. C'est très important qu'on réalise que c'est Dieu qui nous écoute, mais aussi on chante les uns pour les autres. Et je n'ai pas le temps, mais y compris les autres auditoires, c'est un témoignage super fort pour le non-chrétien. Ils viennent, mais si quelqu'un rentre et est en train de chanter « Notre Dieu règne dans le ciel » et comme vous avez chanté, c'était magnifique. S'ils sont pas touchés par ça, je sais pas quoi faire. Mais ça c'est nos chants. J'ai lu ça hier, c'est une citation de Keith Getty, qui est le compositeur de « En Jésus seul » dans le livre chantant. Nos chants sont le... Oh, c'est quoi ça, j'ai fait de mémoire. C'est l'expression manifeste de ce qu'on croit. C'est pas exactement ça, la citation, mais c'est à peu près ça. Public, voilà, un qui écoutait hier, bravo. La manifestation publique de ce qu'on croit, qu'on en chante, c'est un témoignage énorme, mais énorme, surtout, pour marcher en arrière, quand c'est pas une show ici, mais quand la voix principale de l'ensemble est vous. Et les gens, ils rentrent et ils sont dans une église de, je sais pas, vous êtes quoi, 60, j'en sais rien, qui chantent avec tout leur cœur à leur Dieu. Ça, c'est un témoignage. Ça parle. Donc, la dernière chose pour terminer, et c'est un peu compliqué, mais en hébreu, il parle de cette dernière partie de psaume, verset 8 jusqu'à la fin de psaume 95. Et j'ai toujours trouvé bizarre la fin de cette psaume. Hein. C'est vraiment joyeux, et louer Dieu est super. Et puis, ce truc, c'est vraiment... Oh oui, mais c'est dépressant, quoi. C'est dépressif. C'est pas très joyeux, la fin de cette psaume. Pourquoi? Il nous explique que les Israélites, ils ont, une fois encore, ils ont abandonné leur foi. Ils ont pensé, ils étaient pas contents, ils avaient pas assez à manger et pas assez à boire. Ils râlaient contre Moïse au point où Moïse dit, ils vont me tuer. Ils vont lancer le père me tuer. Dieu, qu'est-ce que tu fais avec ce peuple-là? Et ils ont dit, on était mieux en Égypte. Et ça, c'est pourquoi ils n'avaient pas le droit d'aller dans les terres promises. C'était 40 ans après, la génération suivante. C'est quoi, c'est ça? Et donc, la fin de cette somme, c'est un rappel pour nous, parce qu'après, ils n'avaient pas le droit d'entrer dans le sabbat, dans le repos de sabbat, ce peuple. Et Hébreu, dans, je pense, chapitre 4, il me semble, ça parle longtemps de cette partie de 195, et ça nous explique que il est une sabbat, un repos, pour nous, les croyants, les chrétiens, qui mettent notre foi en Jésus, parce que on réalise que c'est pas nous qui gagnons notre salut. On n'est pas sauvé par nous pour ça qu'on fait. Mais si on est fidèle, comme ce peuple n'était pas fidèle, quand ils ont dit, oui, on n'est pas assez de boire et Dieu nous a abandonné encore. Ils ont régné Dieu là. Il a déjà fait une alliance avec eux. Je vais vous amener là-bas. Ils ont dit, non, c'est pas vrai. Parce que j'ai faim. Donc, puisque j'ai faim, je sais que Dieu, tu es menteur. C'est Virgin Kevin, mais c'est à peu près ça. Donc, c'est un avertissement pour nous. Fais pas comme eux. Restez fidèles. Parce que, dans ce monde qui est de plus en plus bizarre, de plus en plus difficile autour de nous, devient trop, on peut avoir un paix, comme Paul a dit, parce que Jésus est place numéro un. C'est la même idée. Tu as une paix, malgré le fait que tu as faim, malgré le fait que tu as soif, malgré le fait qu'il fait chaud, comme pour les Israélites, malgré le fait qu'on doit être masqué, malgré le fait que je dois avoir une vaccination ou pas, malgré le fait que pour traverser en Suisse, j'ai dû faire un truc sur le nez tout le temps. Je suis en paix parce que je laisse Jésus dans cette première place dans ma vie. Et comme ça, le reste, OK. Ça, c'est adoration. Et ça, c'est louange. On prie? Seigneur, notre Dieu, on peut jamais, jamais, jamais trop louer qui tu es. On peut jamais faire trop pour t'adorer. On veut passer éternité en train d'apprendre qui tu es, d'apprendre, de réaliser encore combien tu es glorieux. Quel privilège d'être ici avec mes frères et mes sœurs. Et Seigneur, je prie que tu nous aides dans notre quotidien de garder cette idée, de rappeler de cette idée que Jésus, que Dieu reste en cette première place dans notre vie, qu'on adore que Dieu, malgré les circonstances qui vont venir, parce que on vient de lire que les mauvaises circonstances vont venir. Ce que tu veux de nous, c'est qu'on reste fidèle à toi malgré tout. Qu'on réalise que tu es là. Si tu vas bien, tu es là. Si tu vas pas bien, tu es aussi là. Et de pas abandonner nos foi, et de rester fidèle à toi, et de trouver notre joie, et de trouver notre paix dans le salut en Jésus-Christ. Ça, c'est ma prière pour moi-même et pour cette église et pour votre peuple, Seigneur. Saint-Esprit, sois avec nous et aide-nous de vivre comme ça et que les gens puissent voir ce peuple joyeux comme un témoignage pour toi. Gloire à ton nom, Seigneur. Amen.